Franny le rôle qu'il a. Tu appelles tout de suite et tu dis oui.
Fumer, c'est nul. Ça fait tousser.
C'est toi qui fais la loi maintenant.
Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi.
C'était votre sœur.
Merci, la gueuse. Tu es un laidron, mais tu es bien bonne.
T'as pas vu ton pif, eh? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote?
Écoutez, vous montrez l'homme que vous voulez sur les photos, et moi, je dirai que je le reconnais. Et comme ça, c'est réglé. Et je ferai la même chose au tribunal s'il le faut.
Ça va très mal. Sa femme l'a quitté, en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout.
Bien dormi?
Comme un bébé. Et vous?
Comme un homme.
Nous vous octroyons 45 secondes d'avance.
Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza?
Is it okay with you?
Vive le cinéma!
À l'occasion de la sortie de son film Cocorico ce mercredi, l'Instant Pur Cinéma a le plaisir de recevoir son réalisateur, Julien Hervé. Avant toute chose, salut, comment ça va?
Bah écoute, tout va bien. Voilà, je suis un petit peu dans l'attente, là. On se rapproche quand même de la sortie. Donc voilà, il y a des obligations qui se suivent. Et puis surtout, on commence un petit peu à être tendu, quoi. Tu vois, c'est compliqué le cinéma. C'est un métier étrange. C'est-à-dire que voilà, tu lâches un film et le jour où tu le lâches, quasiment le soir, on te dit s'il plaît ou s'il plaît pas. Donc c'est la sanction. C'est très lent à fabriquer. La sanction, en revanche, peut être assez rapide, voire radicale.
Ça attaque en plus, même dès le mercredi matin, avec le 9h des Halles. Déjà, ça donne une toute petite tendance. Après, c'est pas toujours viable, mais déjà, ça donne une petite tendance. C'est mieux de pas se rater là-bas.
Ouais, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à dire que le mercredi est un petit peu moins déterminant qu'avant. Bon, ce qui est un peu vrai, mais pas totalement. Le 9h des Halles, bon, c'est un peu... Il est symbolique, quoi.
Oui, c'est ça.
C'est un peu le... C'est un peu le point de départ. Après, de manière traditionnelle, la comédie populaire, qui est le genre que moi je pratique, déjà à Paris, c'est pas un genre qui cartonne. C'est quand même quelque chose qui marche normalement beaucoup mieux en province. Et de manière traditionnelle, enfin, je vois par exemple nous sur les Tuches, j'ai des souvenirs de 9h des Halles où on avait fait 6 entrées, quoi, tu vois. Et à la fin, ton film, il fait presque 6 millions d'entrées. Donc faut pas paniquer sur le 9h des Halles. Le 14h Paris est déjà un peu plus significatif, quoique voilà, il faut toujours mettre ce bémol là de comédies populaires qui sont pas forcément toujours très bien accueillies à Paris, malheureusement. Et après, la banlieue peut éventuellement commencer à donner une bonne tendance. Puis c'est vrai que le soir à 23h, on te dit ben voilà, si on te dit faut attendre le week-end, c'est pas bon signe. C'est une sorte de code, tu vois. C'est un code du métier.
Comment est né le projet Cocorico? Ça fait combien de temps que le projet est sur les rails?
Alors en fait, ça fait assez longtemps, parce que d'abord, on a eu une sortie qui a été programmée longtemps à l'avance, mais très lointaine. Alors, normalement, quand on fait un film, toi, tu connais ça, c'est un peu ta partie aussi. Une fois qu'il est fini, bah, tu sors voilà, dans les 3 mois, 4 mois, 5 mois, allez, 6 mois peut-être maximum. Nous, ils nous ont décalé, enfin, ils ne nous ont pas décalé, ils nous ont proposé une sortie 16 mois après la fin de la fabrication du film. Donc, si tu veux, c'est aussi pour ça que je suis un peu impatient, parce que j'en ai marre d'attendre, quoi, pour être très honnête avec toi. Donc, si tu veux, chronologiquement, j'ai commencé à l'écrire en 2020. J'ai fait une première version qui a été envoyée aux distributeurs et aux chaînes janvier 2021. J'ai eu tout de suite M6 et le groupe M6 qui m'a dit « on adore, on y va ». Donc en juin 2021, j'ai signé avec M6. Ensuite, j'ai cherché le cast et tout ça. J'ai tourné en mars 2022, entre mars et mai 2022. J'ai fini de monter en décembre, grosso modo, 2022, c'est-à-dire janvier 2023. Et c'est là qu'on m'a dit, en novembre 2022, on m'a dit, tu sors en février. Alors, février, c'est la meilleure date de l'année. C'est vraiment, c'est un moment où il y a des vacances en décalé. Donc, on est censé avoir 4 semaines vraiment grosses pour, tu vois, donc traditionnellement, si tu veux, c'est une date de sortie de comédie. Alors, je te dis des choses que tu sais probablement déjà, mais je les redis quand même pour les gens.
Oui, c'est bien de les rappeler. Ouais, ouais.
Nous, tu vois, avec les Tuches, on sort toujours en février, à part le Tuche 4 qui était un Tuche de Noël, donc forcément on est sorti à Noël. Mais Astérix, on est sorti en février, évidemment. Danny Boone a sorti nombre de ses grosses comédies. Donc traditionnellement, c'est un gros carrefour un gros marché de comédie. On n'est pas sorti l'année dernière parce que, si tu veux, c'était une année de cinéma très très grosse. On savait que, voilà, qu'il y avait des, tu vois, des poids lourds qui y allaient. Et nous, si tu veux, ce n'est pas un petit film qu'on a, c'est quand même une grosse comédie parce qu'on a un gros casting. Mais après, on n'est pas une franchise. Tu vois, on n'est pas Astérix, on n'est pas la bande à Fifi. Donc, on n'avait pas, tu vois, la dimension pour aller se taper avec ces gros-là. Donc, on a tout de suite pris à l'avance. On a dit, bah, nous, on ira en février 2024. On s'est positionné très longtemps à l'avance. Et ce qui fait que, bah, voilà, on attend, quoi. Tu vois, on attend. Donc, c'est long.
Comment ça s'est déroulé, le tournage ?
Écoute, ça s'est vachement bien passé. J'étais stressé parce que, voilà, parce que quand ce cast un peu énorme m'est tombé sur la tête, moi, c'est mon premier film tout seul. Donc, je me suis dit, bon, comment je vais faire ? Tu vois, comment je vais diriger ces énergumènes. Et en fait, en vrai, ça a été assez simple. Bon, d'abord, si tu veux, faut pas arriver avec la prétention de diriger Christian Clavier et Didier Bourdon. Enfin, c'est des mecs qui ont, tu vois, une expérience folle, qui ont fait 80 à 100 films, qui savent vraiment ce qu'ils font et qui sont des grands professionnels. Donc, il faut plutôt te dire que tu vas d'abord échanger beaucoup avec eux avant. Et en fait, quand on est sur le tournage, bah, c'est des Rolls. Donc, c'est que bah, le texte, ils le savent par cœur. Ils connaissent le texte, tu vois, des partenaires. Donc, ça leur permet de savoir ce qui va sortir. Enfin, toi, ils sont super préparés. Et après, c'est des mécaniques qui sont bien huilées. Donc, tu les diriges peu, en fait. C'est-à-dire que moi, mon travail, ça a été d'écrire, d'échanger avec eux. Une fois que j'avais une première version, d'échanger avec eux quand ils m'ont dit oui. On a refait une deuxième version. Dans ma première version, par exemple, le film ne se terminait pas sur eux, parce que je ne savais pas que j'allais avoir ce cast un peu prestigieux. Et je me suis dit, une fois que je les avais, je dis, bah, évidemment, il faut que je termine sur eux. C'est-à-dire que c'est eux les vedettes du film, c'est eux les poids lourds. Pour moi, c'est De Funès Bourville. C'est-à-dire que Clavier, c'est De Funès, et Didier, c'est Bourville. Tu vois, pour moi, c'est cet équivalent-là. Donc, j'ai réécrit, avec évidemment plein d'idées qu'ils ont pu me donner, des axes sur les caractères, enfin sur les personnages, tu vois, ils m'ont donné plein de conseils. Donc en fait, en vrai, c'était angoissant avant. Après, ben voilà, c'est des mecs qui travaillent. Donc en fait, ils t'aident à faire ton film, ils m'ont beaucoup aidé. Et puis le reste du cast, tu vois, était un peu au diapason. Christian, il a une grande faculté, si tu veux, c'est que c'est quelqu'un qui apprend son texte par cœur. Donc quand il arrive sur un tournage, tout le monde le sait. Et il ne va pas accepter qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas leur texte, ça va un peu l'agacer. Donc tout le monde se met au diapason. Ça, c'est une grande vertu, tu vois, quand tu es réalisateur. C'est-à-dire que tu sais que là, tout le monde, alors ça ne concerne pas Didier, qui lui, de toute façon, connaît son texte également par cœur, il a les mêmes exigences. Et Sylvie Testu, c'est pareil, et Marianne aussi. Mais voilà, ça te donne un bon coup de boost à tout le monde. C'est un peu, les mecs se disent, oula, il y a Clavier, soyons pros. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Donc après, t'as pas besoin de perdre du temps, si tu veux. Tu perds pas de temps sur ça, parce que parfois, tu perds un temps fou. Mais c'est même pas, c'est-à-dire qu'avant d'avoir des bonnes prises, tu vois, tu vas en passer 10. Parce que les mecs savent pas leur texte. Et donc là, putain, tu dis, c'est chiant pour ceux qui sont autour. Tu vois, c'est chiant pour ceux qui attendent. Enfin, je veux dire, ça c'est pas cool, quoi. Donc moi, je préfère travailler dans une ambiance, tu vois, où les mecs sont bien préparés et où ils savent ce qu'ils font, quoi, tu vois, où ils envoient, quoi, quand il faut. Tu dis action et ça part, quoi. Et après, si tu veux, tu verras, quand tu verras le film, tu comprendras, c'est très écrit. Et il y a toute une partie qui est vraiment en intérieur, dans le château des Bouffiers Sauvages, tu vois, de la propriété du personnage de Christian et de sa femme, qui est jouée par Marianne Lenicourt. Donc, si tu veux, il y a un petit côté un peu vaudeville, quoi, tu vois, c'est-à-dire que tu es en intérieur, ça bouge pas beaucoup, donc c'est très écrit. On avait, par exemple, on avait une scène qui faisait 17 pages. Donc nous, on a coutume de dire, si tu veux, quand tu comptes, tu dis c'est une minute par page. Donc, tu as 17 minutes de scène. Alors, tu sais qu'au montage, tu vas resserrer, que toi, à la fin, elle va peut-être faire 12 ou 13, mais elle va être fat, quoi, tu vois, ça va être une grosse scène. On l'a découpée sur toute une semaine. Donc ça veut dire que sur toute la semaine, du lundi au vendredi, on a joué que cette scène-là. Il y avait un petit côté théâtre, tu vois, qui était intéressant, et que eux, bah voilà, Marianne Lenicourt, c'est une grande comédienne de théâtre. Christian, on sait peut-être pas, mais il a fait des dizaines et des dizaines de pièces. Il n'a pas arrêté de jouer au théâtre. Après, ça fait quelques années qu'il n'y est plus, mais je veux dire, ils se sont connus avec Didier c'est la première fois qu'ils ont joué ensemble au théâtre et la seule en faisant La Cage aux Folles. Donc Didier, c'est pareil, c'est un grand comédien de théâtre. Puis c'est des mecs qui ont eu une formation classique. Didier, il aurait pu rentrer à la Comédie Française, il a choisi de pas y aller. Mais c'est un grand comédien et qui peut jouer du drame aussi. Donc c'était, et Sylvie pareil, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mémoire, très vive, donc qu'apprenne vite, quoi. Et donc c'était assez intéressant. Il y a eu une vraie émulation entre eux, tu vois, une vraie bonne ambiance qui a fait que tout le monde a poussé un peu dans le même sens, quoi. C'était très agréable. C'était vraiment très agréable. Il y avait un petit côté colo, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'on a 37 jours de tournage, on a fait 22 jours au même endroit. C'est assez rare de pas changer de décor pendant 22 jours. Enfin, tu vois, c'est très rare. C'est pratique. Tu vois, tout le monde commence à prendre des habitudes et tout. À un moment, c'est bien de sortir aussi, tu vois, ça fait du bien. Mais donc voilà, on a commencé par ça et ils ont bien bossé, quoi. Ils ont bien travaillé. C'était très agréable.
Un casting 4 étoiles pour ton film, on l'a dit. Réunir ces actrices et ces acteurs, c'était un rêve de gosse pour toi ou pas du tout?
Bah, c'est-à-dire que c'est oui, quand je vois ça, quand j'étais face à eux, j'étais vraiment comme un gamin. C'est-à-dire que le premier jour, je commençais par une scène avec Christian, on n'était que tous les deux. C'est une scène où il était dans sa chambre en pyjama, tu vois, dans son lit. Et quand je le vois arriver sur le plateau, tu vois, et là je me dis, putain, c'est Jacouille la fripouille, quoi. C'est-à-dire que c'est t'as le mec des visiteurs en face de toi, t'as le médecin, tu vois, Jérôme Tarrère, le médecin des bronzés en face de toi, et il arrive et il dit, alors Julien, comment vous la voyez cette scène? Là, putain, t'as un petit haut-le-cœur qui dit, oh putain, comment on va faire? Tu vois, tu te dis, faut y aller là. Alors moi, j'avais beaucoup travaillé, tu vois, en amont. Lui, il a été très sympa, tu vois, et très compréhensif. Donc en fait, tu te jettes à l'eau et puis t'y vas, quoi. Mais c'est-à-dire que la genèse du projet, c'est que quand j'écris, je pense à Didier. Parce que je trouve que, tu vois, c'est le rôle qu'il va jouer, c'est celui d'un concessionnaire, toi, d'un mec qui vend des Peugeot, qui est très français, tu vois, mais de la classe moyenne, toi, qui s'est fait tout seul, mais qui a pas, tu vois, qui vient pas d'une grande famille ou quoi que ce soit. Donc je me dis, ah, ça irait bien à Didier. Donc je commence par Didier, c'est à lui que j'envoie le script en premier. Il me dit oui très vite. Et derrière, j'ai en face, tu vois, un aristocrate, tu vois, pédant, insupportable, qui arrête pas de tout ramener à ses origines en disant, ouais, on est une grande famille, tu vois, désolé, quoi, tu vois, ça implique des obligations, donc le mec, il est odieux. Et au bout d'un moment, si tu veux, on propose des noms, de machin et tout, et à chaque fois, je dis, bah non, ça va pas, il y a rien qui sonne. J'avais évidemment pensé à Clavier dans un coin de ma tête, mais je sais pas, je pense que je m'autorisais pas tellement à y croire ou à y penser, parce que je me suis dit, il viendra pas. Et ce qui est con, hein, tu vois, dans la vie, il faut toujours essayer, hein, c'est bien la preuve. Et à un moment, comme j'avais pas d'envie, parce que je pense que j'avais pas réglé ça, j'ai dit, bah vas-y, il faut y aller là. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé son agent, Alexandra, et je lui ai envoyé le script. J'ai dit, voilà, je voudrais faire passer ça à Christian. Elle l'a envoyé à Christian, il m'a rappelé, je sais pas, 4 jours après, 5 jours après. Donc d'un seul coup, bah, tu bascules, tu dis, putain, voilà, on me dit, moi, parce que même si je savais pas précisément qu'ils avaient jamais joué ensemble au cinéma. Tu vois, même si c'est vrai que t'aurais pu t'en souvenir quand même une confrontation pareille. Mais donc je savais pas. Et après, d'un seul coup, tu bascules dans le truc un peu événementiel. Tu vois, tu rajoutes à ça Sylvie Testu, qui est une grande comédienne, qui est une meuf qui a déjà eu 2 Césars, qui a eu un Molière encore cette année, qui est vraiment. Enfin moi, j'ai adoré travailler avec elle. Je la connaissais peu. Et je trouve que elle est très très drôle. Alors dans le film, moi, je la trouve à pisser de rire. Je trouve que c'est un peu la révélation comique du film. Alors les deux, tu vois, tu les connais, tu sais que c'est des Rolls, donc tu dis, voilà, ça, c'est ils jouent sur du velours. Et je trouve que Sylvie, voilà, elle est vraiment très très drôle dans le film. Et Marianne, bah, c'est pareil. Marianne, si tu veux, il fallait un peu le clown blanc, quoi, tu vois. C'est-à-dire que comme Christian, quand il va ouvrir les tests ADN, il va partir en sucette parce que c'est un mec qui est assis sur sa galerie de portraits, qui t'assomme avec son hérédité, qui dit, bah, nous, on est une grande famille, on est en France depuis Louis VI le Gros, et en gros, bah, moi, je ne vais pas ouvrir parce que ça ne sert à rien. Tu vois, il dit, moi, les tests ADN, ils sont sur les murs de mon château. Tu vois, on sait qui je suis et d'où je viens. Et évidemment, il va tomber de son piédestal, tu vois, de très très haut. Et lui, bah, il le vit, tu vois, très intensément, parce qu'en fait, c'est toute sa vie qui s'écroule. Il a l'impression que, tu vois, qu'il n'est plus personne. Et il fallait en face, tu vois, quelqu'un, un peu une sorte de clown blanc, tu vois, quelqu'un qui va. Puis je voulais surtout qu'elle soit classe, tu vois. Parce que ce que je voulais, c'est que les Martins, quand ils arrivent, donc Didier et Sylvie Testu, quand ils arrivent, je voulais qu'ils soient écrasés par le lieu, quoi, tu vois. C'est-à-dire que Didier vend des Peugeot, il arrive dans la cour, t'as 2 Mercedes flambant neuves, une Porsche à côté, et le mec, il voit ça, il dit, oh putain. Et lui, il a sorti une Peugeot, toi, de sa concession, il s'est fait beau. Tu vois, le mec, il a fait le maximum, sauf qu'il arrive, et, tu vois, il passe le portail, et puis tu dis, mais c'est mort. Il dit, vous êtes mort. mais c'est pas au niveau. Et alors tu peux avoir en face des gens accueillants et sympathiques, sauf qu'il se trouve que ce qui est plutôt d'ailleurs le personnage de Marianne, en tout cas au début, elle est plutôt sympa, elle est un peu snob, mais c'est pas une chieuse, elle est pas sympa avec eux, en tout cas elle les accueille bien. Christian, Frédéric Bouvier Sauvage, alors, il est tout de suite, tu vois, tu comprends qu'il en a rien à foutre de toi. C'est-à-dire que Didier lui dit Gérard Martin, qui est le nom de son personnage, et Christian lui dit trois fois ravi, ravi, ravi. Et tu sais que c'est un ravi, il le regarde même pas, c'est, il dit j'en ai rien à foutre, voilà ce que ça veut dire, et je m'en branle, je veux pas savoir comment tu t'appelles, ça m'intéresse pas. Donc tout de suite tu poses le truc, et je trouvais que le décor fallait s'en servir, tu vois. Et là on a tourné dans un château bordelais qui s'appelle Château de la Rivière. Alors ça c'est les extérieurs, c'est somptueux, c'est, t'arrives, tu te dis waouh, t'as des palmiers, enfin tu vois, c'est juste un délire, et ils sont au milieu des vignes, parce que je voulais que ce soit aussi au milieu des vignes, parce que pour moi ça raconte ça aussi, la tradition, le mec qui est, tu vois, c'est-à-dire que ces deux personnages, il y a quatre personnages, mais les deux personnages qui se confrontent vraiment, c'est les deux maris. C'est deux personnages très français, mais pas au même niveau sur l'échelle sociale. Voilà, c'est tout. Et après, le petit grain de sel ou petit grain de sable, bah, c'est quand ils ouvrent les tests, les gros deviennent un peu moins gros et les petits deviennent un peu plus gros. Et tu dis alors, il se passe quoi maintenant ? Tu vois, c'est la confrontation de ça. C'est ça qui, moi, m'amusait. Tu vois, c'est-à-dire que tu mets les ingrédients en place et après tu fais exploser et tu vois un peu comment ils réagissent. Bah, j'espère que ça plaira, toi, que ça plaira aux gens. Je pense que voilà, il y a quand même, c'est quand même un événement quand tu les vois face à face. Ils ont deux scènes vraiment où ils sont que tous les deux. C'est quand même, il se passe un truc, quoi. Tu vois, tu te dis putain, c'est quand même pas rien, quoi. C'est-à-dire que t'as, tu vois, un champ sur Christian, boum, contre-champ sur Didier. Puis tu vois bien la subtilité du jeu, les regards, ah, c'est quand même, ils sont très forts, hein, les mecs. C'est vraiment des grands comédiens. Donc ça, c'était un réel plaisir, en fait, de voir le, tu vois. Après, oui, j'ai 50 ans, donc, tu vois, moi, quand j'étais au Collège Jeanne d'Arc, tu vois, à Cholet, c'était en pleine période de la télé des Inconnus. Donc, tu vois, nous, on a connu ça vraiment. Tu vois, en live, on était là, on le regardait le soir et puis le lendemain, on se débriefait. On était complètement dingue de ça. Puis après, moi, je suis fan absolu du Splendid, je suis fan absolu des Visiteurs, ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde, mais pour moi, c'est un chef-d'œuvre de comédie. Et donc, voilà, bah oui, c'est sûr. Il y a des moments, tu vois, le premier jour, j'ai fait une photo avec Christian, j'ai l'impression d'être un fan, en fait. Mais après, voilà, moi, j'ai oublié ça. J'étais là pour travailler, eux aussi, j'étais là pour faire un film. Je me suis servi, tu vois, de toute leur expérience, tout leur talent. Et puis, j'ai essayé de faire le film que j'avais en tête, quoi, tu vois. Et c'était cool. Franchement, c'était une très bonne expérience.
C'est quoi ton rôle préféré dans la production du film ? Est-ce que c'est plus les balbutiements, les premières notes que tu peux prendre ou plus la finalité de le voir en salle ?
En fait, il y a quand même plusieurs moments qui, pour moi, sont intéressants. D'abord, l'écriture, parce que je suis avant tout un scénariste. Donc c'est vraiment ça qui, toi, que je trouve, ce qui est assez passionnant, si tu veux, ce qui est assez dingue, c'est de se mettre sur un ordinateur avec une page blanche, tu vois, et de dire voilà, tout ce qui va sortir de ma tête, bah, ça va créer un film. Donc ça, c'est quand même un truc, une expérience, tu vois. Alors ça peut être un peu écrasant aussi, ça te met la pression, mais en vrai pas tellement, tu vois. C'est assez génial, quoi. C'est un grand truc de liberté. Tu te sens libre, tu dis je peux, tiens, il sort de l'immeuble, il va à gauche ou il va à droite, du bas je décide, bah, tiens, il va à droite. Tiens, qu'est-ce qui lui arrive ? Enfin, tu vois, c'est en termes de création, c'est génial. Après, le tournage, je trouve ça hyper intéressant aussi. Moi, j'aime pas trop, si tu veux. Enfin, je m'intéresse pas particulièrement à la technique, au focal des caméras, aux optiques, au machin. Je suis sur le jeu. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le jeu. Et le jeu, c'est un peu à l'oreille, quoi. C'est-à-dire que j'ai une musique, tu vois, d'une phrase, de la façon dont je pense qu'il faut la dire, et je recherche ça. Tu vois, c'est comme un truc, c'est musical, quoi. Pour moi, c'est musical. Donc ça m'intéresse vachement. Après, le montage, passionnant. Le montage, c'est passionnant parce que au montage, tu peux tricher. C'est-à-dire que tu peux quasiment créer une scène qui n'a pas été jouée. C'est hallucinant tout ce que tu peux faire. Donc c'est hyper intéressant. Ça, j'adore. Et puis après, je trouve c'est important parce que encore une fois, tu vois, je reparle un peu de musique, mais de rythme. Tu vois, pour moi, dans la comédie, il y a un rythme qui est très important. Et donc, quand quelqu'un va sortir une vanne, il faut être là à la réception, tu vois. Faut jongler entre tes différents plans, tes différents axes. Je trouve ça passionnant, en fait. Après, la dernière expérience vraiment, qui est celle qui te procure le plus de sensations, c'est t'asseoir dans une salle, tu vois, si possible pleine, et d'écouter la réaction des gens. D'abord, tu as un verdict, tu vois, c'est-à-dire que ça te dit si ton film il marche. Alors, si tu veux, s'il y a une salle de 500 et que les gens sont morts de rire, tu peux te dire, bon, a priori, il y en a d'autres qui vont rigoler. Si tu as une salle de 500 et que ça arrive peu, bon, tu es un peu emmerdé, tu n'es pas bien. Et ça, bon, c'est compliqué parce que faire tout ce que tu veux, tu vois, essayer tout ce que tu veux sur ton film, il y a un moment, il y a une sanction, quoi, il y a une vérité. Il y a une vérité, c'est est-ce que ça plaît aux gens. Donc nous, si tu veux, on a eu beaucoup de projos, mais entre nous. Donc c'est pas des projos, c'est des projos importants parce que tu montres aux mecs qui ont financé ton film, évidemment qu'il faut qu'ils soient contents, tu vois, c'est dans ton intérêt. Mais une fois que tu as passé ça, tu dis ok, mais eux, ils sont, tu vois, un peu, ils sont dedans, quoi. Donc est-ce qu'ils sont, tu vois, c'est-à-dire qu'ils arrivent pas vierges, quoi. Tu vois, ils arrivent un peu avec une idée en tête ou quoi que ce soit. Donc ce qui est intéressant, tu vois, là, on a fait une projo en décembre avec Christian, parce que Christian n'avait pas vu le film, et il y avait 100 personnes dans la salle, et des gens qui n'étaient pas tellement connectés au film, et la projo s'est vraiment très bien passée. Donc ça, t'as une réponse. Et après, t'as Christian qui vient te voir et qui dit, ok, t'as réussi ton coup, le film il est super. Et ce mec-là, c'est pas n'importe qui. Au-delà de toi, c'est un mec qui a du pif. Il a le sens du populaire, dans le sens noble du terme, parce que en France, on a souvent tendance à, tu vois, dénigrer la comédie populaire. C'est très difficile de réussir une comédie populaire. Et de faire rire les gens, c'est vachement dur. Donc, je ne sais pas si je vais y arriver. Nous, on a déjà réussi à le faire, tu vois, par l'intermédiaire des Tuches, parce que ce n'était pas nous directement. On écrivait, ce qui est déjà pas mal. Mais on ne réalisait pas et on n'était pas à fond dessus. Là, on est en première ligne. Donc, voilà, il faut y aller. Quand tu as un mec comme lui qui déjà te dit oui, quand il lit ton script, tu dis ah, c'est cool, qu'il te fait des compliments en disant c'est bien écrit, tu dis c'est cool. Et quand à la fin, tu vois, il dit c'est super parce que mon personnage est odieux, mais tu as réussi à le sauver à la fin. Enfin, tu vois, il te fait des compliments comme ça. Bon, bah, ça veut dire que tu as plutôt bien travaillé. Mais encore une fois, ça n'assure pas que les gens vont voir le film et vont se marrer. Tu vois, il y a un truc qui ne s'explique pas, un truc un peu irrationnel, tu vois, qui fait toute la beauté du cinéma, mais aussi sa cruauté ou sa difficulté. Parce que c'est, voilà, t'as un couperet qui tombe.
C'est exactement ce que j'allais dire, c'est vraiment le dernier couperet, c'est eux qui ont le film en main, quoi.
Après, c'est normal, tu fais le film pour les gens, donc c'est normal que ce soit eux qui
décident. Bien sûr. Hein. T'es né à Cholet, tu gardes un attachement particulier à la ville ?
Bah, j'y viens quand même de temps en temps, mes parents vivent toujours, tu vois, à Cholet. J'ai pas mal de potes qui sont encore, oui, c'est vrai, évidemment, j'ai un attachement, c'est-à-dire que c'est chez moi, tu vois, c'est vraiment chez moi. J'y ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Après, je suis un peu parti, mais je revenais parce que mes parents habitaient Vezin, tu vois, à côté de Cholet, okay. jusqu'à il y a 3 ans où ils sont là vraiment venus vivre dans Cholet. Et donc, si tu veux, moi, à chaque fois que je redescendais, j'allais à Cholet, donc j'y suis souvent. Donc oui, j'ai un attachement particulier. C'est quand même là que, tu vois, okay. Bah, que j'ai fait mes premières années. Enfin, tu vois, moi, j'ai plein de souvenirs de Cholet Basket, de tout ça, tu vois. Je suis un peu quand même l'actualité de la ville, même à distance, quoi, tu vois. Non, c'est un endroit important. Ouais,
trop bien. On va pouvoir passer un petit jeu, moi je l'aime beaucoup, c'est l'heure de l'instant réminiscence.
Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine.
Alors, je vais te poser plein de petites questions. Pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. Si jamais je te repose la question demain ou après-demain, en fonction de tes humeurs, tes envies, tes réponses pourraient être complètement différentes et il n'y aura aucun souci là-dessus. Est-ce que c'est bon pour toi ?
Écoute, ça m'a l'air assez clair.
On y va. Quel est ton film doudou, ta Madeleine de Proust ?
Quatre mariages et un enterrement.
Ton affiche de film préférée ?
Oh, c'est difficile à dire, tu vois. J'aime bien, mais après, est-ce que j'aime bien le film ? J'aime bien Amadeus, tu vois. J'aimais bien aussi, c'est assez marrant parce qu'il y avait un film qui s'appelle Les aventures de Baron Munchausen de Terry Gilliam, qui n'est pas peut-être son film le plus connu, j'en sais rien, mais qui est un film qui pour moi est, tu vois, une référence. J'adore ce film, je le trouve extraordinaire. Et ce qui est assez drôle, c'est que je l'ai vu à Cholet, j'étais à la mi-carême et il s'est mis à pleuvoir comme c'était pas permis, donc ça a foutu le bordel et ça a été un peu, tu vois. Donc je me suis réfugié. Donc à l'époque, c'était au Palace, tu vois, je sais pas si tu as connu le Palace, toi, qui était...
Pas du tout, ouais.
C'était derrière la place Travaux. C'était au Palace, je me suis réfugié là pour me protéger de la pluie. La pluie ne passait pas, Donc à un moment, j'ai dit, bah, je vais aller au ciné, quoi, tu vois. Donc j'y suis pas du tout allé, voilà, et je regarde les affiches et je vois Les Aventures du Baron Munchausen. Je rentre là-dedans, et là, c'est un film qui est exceptionnel, enfin, tu vois, que je trouve très poétique, très, voilà, que j'ai adoré. Et puis, si tu veux, je m'attendais pas du tout à y aller. Enfin, toi, il est lié à un vrai souvenir, tu vois, parce que la preuve, c'est que je me souviens. En général, tu te souviens pas de ce que tu faisais, tu vois, le jour où t'es allé voir un film, enfin, à part que t'es allé voir un film. Et celui-là, il a une, voilà, il a un goût particulier. Donc après, je suis pas du genre non plus à mettre des affiches au mur, tu vois, chez moi. Je m'en fous un peu. Enfin, tu vois, je suis pas trop là-dedans. L'affiche, je peux faire des digressions, c'est pas grave.
Vas-y, y a pas de souci.
L'affiche, c'est un moment compliqué, une affiche, tu vois. Alors après, quand tu fais une comédie populaire, les financiers, les distributeurs et tout ça, ils ont toujours tendance à faire une affiche assez simple et didactique. Tu vois, genre, il faut comprendre, tu vois, que les gens comprennent de quoi ça parle. Alors moi, je dis, ouais, mais les gens sont pas cons. Donc, faut pas non plus, tu vois, être trop didactique. Ça sert à rien. Mais si tu veux, nous, dans la comédie populaire, on rentre dans la catégorie des affiches que tu mets pas forcément chez toi. Parce que c'est pas un objet d'art. En revanche, ceux qui font, tu vois, du cinéma un peu plus auteur ou des choses comme ça, peut-être aventure parfois aussi, ils vont parfois faire des affiches où tu dis, putain, celle-là, je peux la mettre chez moi, je peux la mettre sur le mur. Nous, malheureusement, tu vois, moi, j'ai fait le doudou avec mon pote Philippe. On n'était pas des grands fans de l'affiche, tu vois, du doudou. Là, je trouve qu'elle est bien, l'affiche de Cocorico, mais alors, ce que j'aime bien, c'est qu'elle me fait penser aux trois frères, tu vois, qui étaient, et où ils étaient tous les trois avec un, tu vois, avec un journal où il y a écrit les trois frères dessus, ils regardaient le. Donc, je trouve qu'elle a un peu ça, et je trouve ça marrant comme évocation, tu vois. Mais après, la comédie populaire, c'est pas des affiches qui sont faites pour être dans ton salon. C'est des affiches qui sont faites pour être. Alors c'est vrai que moi, la mienne, hop, Cocorico, on choisit pas ses ancêtres. Tu vois le cast. Bon, je pense que tu comprends à peu près, tu vois où tu vas, quoi. Tu vois.
Ouais, c'est ça. Tu sais où tu vas.
Là, et c'est important quand même.
Ouais. On avance.
On avance.
Une bande originale que tu aimes particulièrement?
Alors y en a une. Le film, je le connais pas particulièrement bien, tu vois. C'est Amarcord de Fellini, mais c'est juste que j'aime bien, moi, Nino Rota, tu vois,
ouais.
ce musicien. Donc ça, et puis après, Ennio Morricone, le bon, la brute et le truand.
Ouais.
J'ai regardé là, le documentaire sur lui, là,
Ennio. Incroyable.
Exceptionnel.
Ouais, ouais.
Oh putain, qu'est-ce que c'est bien. Incroyable. Qu'est-ce que c'est bien. Et c'est marrant, parce que c'est intéressant aussi quand t'es dans la création et tout, parce qu'en fait, le mec, bah, c'est un musicien classique. Et au début, c'est presque honteux pour des musiciens classiques de faire de la musique de film, tu vois.
C'est ça. Ouais, carrément. Il était renié de tout le monde parce qu'il faisait des musiques de film. Ouais.
Et des Morricone, de tubes qu'il a sortis, c'est hallucinant. Et là, d'un seul coup, boom. Et c'est pareil. C'est-à-dire que, tu vois, moi, j'ai bossé avec un musicien qui s'appelle Mattei Bratesco, qui est un mec très sympa. Et qui a été. On s'est bien compris, tu vois. C'est pas toujours facile. Moi, je trouve ça dur, la musique sur un film. Parce que. Moi, j'adore la musique, mais je suis pas musicien, donc je sais pas du tout parler, tu vois, avec des mots de. Donc quand je dis au mec, je dis je veux un thème, il dit ok, mais c'est très simple de dire ça, mais en fait ça veut rien dire, tu vois. Je dis bah je veux un thème, tu vois, je veux un truc un peu dont on puisse se souvenir, qui soit présent mais qui soit pas trop présent. Enfin, en fait, tu dis tout et son contraire, tu vois, et avec des mots qui sont pas du tout techniques. Et ce mec là, c'était super parce qu'il m'a compris. Il est revenu avec deux, trois idées. Je lui ai dit, bah, ça, j'aime bien. Et hop, il est parti. Puis après, il a décliné un peu pendant tout le film, tu vois, des choses. Moi, je suis pas sur la comédie, je suis pas forcément, tu vois, un défense. Je veux pas qu'il y ait trop de musique, tu vois. Il y a des moments où je pense que c'est un peu nécessaire, quand tu fais des petites transitions, des machins. Mais encore une fois, je crois que c'est moins nécessaire ou moins indispensable que quand tu fais un grand film dramatique, tu vois, ou un grand film d'aventure. Ou un truc qui peut se passer à l'étranger, tout un peu exotique, tu vois. Après, voilà, je citerai ça parce que je l'écoute beaucoup, la BO d'Amarcord, tu vois. Parce que c'est très cirque un peu, tu vois. C'est la musique est très cirque et c'est assez joyeux. Donc voilà. La scène d'ouverture d'Amadeus, qui pour moi est un film extraordinaire, parce que c'est un film sur le génie. Et sur le génie et sur l'injustice. C'est-à-dire que tu as d'un côté Salieri qui est catholique, qui est dévot, qui prie toute la journée. Et en face, t'as Mozart qui est un singe, c'est-à-dire qu'il est mal élevé, tu vois, il est insupportable, c'est un chieur. Et quand Salieri entend sa musique, il dit mais cette musique elle vient de Dieu, quoi. Il dit elle est divine, il a un don. Et quand il voit le mec, il est choqué, il dit mais comment c'est possible? Et là il se tourne vers le Seigneur, il dit mais Seigneur, comment t'as pu faire un truc pareil? Comment t'as pu donner ce don à ce mec-là? T'aurais dû me le donner à moi, parce que moi, je suis pratiquant, je respecte toi tout. Et t'as la scène du début, quand il s'accuse d'avoir tué Mozart, qui dit au curé, et il fait écouter des trucs au prêtre qui vient le voir, et lui dit, bah, j'étais, toi, compositeur de la cour, ouais, Salieri quand même, donc il dit, non, je suis désolé, je ne vous connais pas, tu vois. Il lui fait 3-4 morceaux, et le mec dit, bah, non, désolé, je ne connais pas, et tout. Et à un moment, il lui dit, et ça, vous connaissez? Il fait, tin, tatin, tatatatatin, tin, tatin. Et l'autre, il dit, ah ouais, je connais ça. Il lui dit, c'est de vous, ça? Il dit, bah, non, ça, c'est de Mozart. Et ça, c'est, elle est folle, cette scène. C'est que tout est résumé là-dedans. Et ça, quand t'as ce talent-là, c'est hors norme. Et je trouve que c'est intéressant, toutes ces réflexions, tu vois, sur le, voilà, je trouve qu'Amadeus, tu vois, est un film vraiment puissant dans l'écriture et tout. Je trouve ça vraiment, tu vois, c'est profond.
On avance, la dernière, rien à voir. Ton plat préféré?
Mon plat préféré, ouais, c'est une bonne question. C'est pas très facile parce que moi j'aime bien manger, donc j'aime beaucoup de choses. Mais je pense que, tu vois, une bonne côte de bœuf avec des potes, ça peut quand même, tu vois, remporter le truc. Après, tu vois, je cuisine un tout petit peu, hein, je suis pas un grand cuisinier, mais je fais un rougail saucisse qui commence à être pas mal, tu vois.
Là, tu me parles.
Commence à pas
là,
être dégueulasse. Tu me parles. J'ai un pote réunionnais, tu vois, qui m'a filé la recette et tout, donc je commence à, tu vois. Après, je fais un bon bœuf bourguignon aussi, qui n'est pas dégueu. Je commence à me débrouiller. Après, ouais, je fais bien la tortilla espagnole, là, tu sais, très épaisse et tout. Alors, c'est pas très compliqué, hein, tout ça, mais ça prend du temps. Donc voilà, ça j'aime bien.
Mais t'as facilement quelques petites techniques dedans qui sont pas forcément évidentes.
Non, mais en tout cas, c'est, voilà, donc je dirais comme ça, tu vois, si je veux faire simple, une côte de bœuf avec les potes, parce que c'est quand même, c'est quand même très convivial, je trouve, avec une bonne bouteille de vin. Et sinon, voilà, tu vois, j'aime le couscous aussi. Mon père fait un très bon couscous. Ma mère fait une très bonne paella. Enfin, tu vois, voilà. Je suis assez, world cuisine, hein, comme tout le monde.
On est bon. Pour rappel, Julien Hervé, ton nouveau film sort ce mercredi en salle, le mercredi 7 février. Ça s'appelle Cocorico. Au casting, on y retrouve Christian Clavier, Didier Bourdon, Sylvie Testude, Julien Pestel, entre autres.
Bon, t'es prête pour la rencontre?
Je suis ravi de rencontrer les parents d'Alice. C'est que ton père et moi, on n'est pas du genre à faire des manières, hein.
Alors, elle vous plaît? Voilà la beauté.
Mais t'es fou, chérie.
Je l'empruntais à la concession. Elle est même pas encore en vente, hein. C'est une merveille.
Tu sais, papa, ça sert à rien de vouloir impressionner les bouviers sauvages.
Oh, je sais très bien que ça va les impressionner, mais je fais pas ça pour ça. Bon, allez.
Mon Dieu, mais c'est magnifique.
Un peu froid, mais joli.
Frédéric Bouvier Sauvage, enchanté.
Nicole et Gérard faisaient des compliments sur le domaine.
Ah oui.
C'est une des plus belles propriétés de toute l'Aquitaine.
Je vous fais découvrir.
Oh oui, j'adore le billard. Oui,
alors moi, je joue à l'américain.
Oui, bien sûr, comme dans tous les bars PMU.
Chérie, t'as raté quelque chose.
Quoi?
Un jardin d'hiver magnifique avec des orangers, des orchidées très rares.
Nous aussi, on a un jardin d'hiver à la maison. On appelle ça une véranda.
Le labo où je travaille est américain. Ils nous ont offert des tests ADN. C'est un test qui détaille toutes vos origines.
Ah.
Les résultats, les voilà.
Hein?
Alors,
notre test ADN, il est sur les murs de ce château. Nous sommes en France depuis Louis VI le Gros.
Tu sais, ma chérie, c'est un peu comme ton père, hein. Mes ancêtres sont connus depuis longtemps. Je suis française et italienne, et voilà, c'est tout.
Enfin, moi, je suis français depuis toujours, alors si ça peut vous faire plaisir, j'ai rien à cacher, moi.
Alors, qui commence?
Qu'est-ce que c'est que cette connerie?
Tout d'abord, un remerciement tout particulier pour Ronald Guérin du Hot Milk. Merci pour cette opportunité, merci de croire en ce que je fais. Et merci à toi, Julien, merci infiniment de m'avoir accordé de ton temps, de t'être prêté au jeu. Merci pour ta confiance, je te souhaite tout le meilleur pour la sortie du film, comme on dit, merde. Et écoute, je te dis bonne continuation et à bientôt.
Bah, écoute, c'est très gentil et c'était très agréable d'échanger avec toi, et donc je trouve ça cool. Et je pense que tu sais ce que tu fais et tu sais de quoi tu parles, donc continue, parce que à mon avis, ce serait dommage que tu arrêtes la cuisine, mais parce que je pense que tu cuisines bien. Je viendrai goûter, hein, je viendrai chez toi pour goûter.
Carrément.
Il faut que je voie. Mais en tout cas, c'est cool et puis je suis content, moi, tu vois, que qu'il y ait des gens, tu vois, de ma région qui fassent, tu vois, des choses comme ça, qui se lancent. Voilà, moi, il n'y avait rien qui me prédestinait à faire ce que je fais aujourd'hui. Et bah, c'est un mélange de chance, de rencontres, tu vois, d'opportunités comme ça. Mais il y a un truc que je sais, c'est qu'il faut essayer. Voilà, il ne faut pas s'auto-censurer, il faut essayer. Tu vois, moi, je ne pensais pas que Christian Clavier viendrait sur mon film. Donc, je me suis dit, bah, ça ne sert à rien d'essayer. Puis avant, il dit, bon, on va pas mourir idiot, j'essaye, et ben le mec il est venu. Donc voilà, c'est un bon exemple, je trouve, il faut toujours essayer. Et il faut y croire parce que voilà, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir et il y a de la place pour toi, pour des gens comme nous, des petits mecs de province que toi, qui voilà, c'est qu'ont pas forcément accès à tout. Alors aujourd'hui, je trouve qu'avec les nouvelles technologies, tu vois, tu peux faire un podcast depuis chez toi. Je trouve ça génial. C'est vachement bien. Ça ouvre vachement. Ça donne plein d'opportunités. Donc voilà, je peux que t'encourager à continuer ça. T'as l'air d'être passionné de cinéma, donc c'est cool. Et j'espère revenir te parler, tu vois, pour les prochains films sur lesquels je travaillerai. S'il y en a d'autres.
Avec grand plaisir. Eh bien, écoute, merci voilà. Beaucoup, ça me fait chaud au cœur.
Non, je te prie, merci à toi.